Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. 3 sur 5 pour les clubs français ce week-end en Coupe des Champions. Qualification pour les quarts de finale des Toulousains, des Bordelais et des Rochelais. Et ce sont des Maritimes dont on va parler aujourd'hui. Un long déplacement en Afrique du Sud, une fin de match dingue contre les Stormers. Une victoire d'un point, 22-21. Les Rochelais se sont compliqués la tâche, mais ils sont toujours là, en lice pour peut-être un troisième titre européen de suite. Que faut-il retenir de cette rencontre? Comment aborder le quart contre le Leinster? À quoi peut-on mesurer l'attachement des Rochelais à la Coupe d'Europe? Pour en parler aujourd'hui, deux journalistes rugby de l'équipe, Adrien Coré, bonjour.
Bonjour Léa.
Et Yann Sternis qui revient tout juste d'Afrique du Sud. Salut Yann.
Salut.
Crunch, c'est parti, flexion liée, jeu. Un sentiment de déjà-vu pour les Rochelais samedi sur le terrain des Stormers. Comme en décembre, Manny Liebok a tenté la transformation de la victoire, sauf que cette fois, il l'a raté. Victoire donc des Rochelais, grosse performance. Première équipe à s'imposer en Afrique du Sud en Coupe des Champions. Et pourtant, au coup de sifflet final, les joueurs avaient l'air plus soulagés que vraiment contents. Yann, tu étais au stade, tu peux nous raconter cette scène, comment les joueurs l'ont vécu?
C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie là, au coup de sifflet final. Je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, ils viennent de prendre un essai, ils se sont fait une très grosse peur. Ensuite, ils sont mâchés, ils sont très fatigués. Et enfin, ils sont presque déçus de leur performance. Ils ont vraiment joué 30 minutes de leur jeu, ça a suffi à passer. Mais il y a eu 50 minutes qui étaient vraiment, vraiment pas bonnes à côté.
Et pendant le match, comment était l'ambiance au stade? Tu étais en Afrique du Sud, donc forcément une ambiance particulière, j'imagine.
Ouais, déjà, il y avait beaucoup de vent. Ça, je ne sais pas si ça se voyait à la télé, mais il y avait vraiment énormément de vent. Enfin, nous, on devait en tribune de presse tenir notre ordinateur portable pour qu'il parte pas. Et c'est un peu étonnant parce que ce stade, il est fermé, il est moderne. En fait, il est à côté de la mer et à travers les tribunes, il est ouvert aux quatre vents. Donc ça a vraiment de l'importance. Ça s'est vu dans le match où, en première période, les Rochelais ont vraiment souffert. Je pense à Dulin sur son premier dégagement qui dévisse contre le vent. Après, côté ambiance dans les tribunes, c'est monté au fur et à mesure. C'était pas totalement plein, il y avait je pense 25 000, peut-être moins de 30 000 spectateurs sur un stade qui peut faire 50 000. Donc c'était pas plein, mais il y avait quand même, ça s'est bien réchauffé à partir de la 70e quand les Stormers reprennent le ballon, reprennent espoir. Là, on a vu tous les supporters en fait se lever et commencer à chanter. Et il y avait quelque chose d'entêtant, c'était assez, assez impressionnant. On ne s'entendait plus trop, alors que jusqu'à là, c'était assez, assez tranquille. Donc je pense que ça a participé à mettre une pression sur les Rochelais dans cette fin de match.
Tu viens de l'évoquer, le stade n'était pas complètement plein. À la télé, c'est ce qu'on a vu. On a une impression de stade vide. C'était le cas aussi de Lyon contre les Bulls un peu plus tôt dans la journée. J'ai le souvenir d'un match de l'UBB aussi en janvier chez les Bulls où le stade était quasiment vide. Est-ce qu'on a une explication sur ça?
C'était aussi le cas en décembre du précédent Stormers La Rochelle où là, il y avait vraiment. C'était complètement vide.
C'est Aurélien, je crois, Bouissé, qui avait fait un peu des explications à ce sujet-là sur l'absence d'engouement en fait des supporters sud-africains sur leur club, sur ces championnats nouveaux pour eux. En Currie Cup, il y a beaucoup plus d'ambiance et les matchs des Springboks affichent toujours complet. Donc ouais, je pense que c'est peut-être la notion de nouveauté de cette compétition pour eux qui ne comprend pas totalement.
Alors, pour en revenir à La Rochelle, on le rappelle, les Rochelais ont un programme très compliqué en Coupe des Champions. Ils n'étaient pas dans une poule facile. Ils ont terminé troisième, donc contraints de se déplacer pour les huitièmes en Afrique du Sud. Et ils se déplaceront aussi pour les quarts. Est-ce que, du coup, ils avaient une pression particulière face à ce parcours du combattant, quand même?
Ah ouais, je pense qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a l'Himalaya devant eux depuis le mois de janvier pour garder leur titre. Mais ça a l'air de les galvaniser plus qu'autre chose, quoi. Quand on leur pose la question, ils répondent rapidement. C'est ce genre de challenge qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime jouer. Ils sont assez surprenants à cet égard.
Ouais, puis ça leur crée une nouvelle aventure comparé aux précédentes campagnes européennes qu'ils avaient fait où ils avaient beaucoup joué à domicile en phase finale. Là, c'est un défi supplémentaire pour eux. Et je pense que ouais, c'est quelque chose dont se sert évidemment le staff pour galvaniser tout le monde.
Après, là, on c'est pas seulement jouer à l'extérieur, c'est en plus aller jouer sur un autre continent, quoi. Mm. C'est partir de La Rochelle pour aller en Afrique du Sud, jouer un match, digérer un voyage. Ils sont arrivés le mercredi, donc à digérer en 3 jours. Revenir en Europe et rejouer 4 jours plus tard. Donc ça risque d'avoir son importance. Certes, il n'y a pas de décalage horaire, ce qui leur sert plus qu'autre chose, mais il y a quand même des heures d'avion à digérer.
Et donc, ils sont arrivés sur place mercredi. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas jusqu'au match le samedi? Parce que, comme tu viens de l'expliquer, ce n'est pas un déplacement comme les autres.
Bah, en fait, ils connaissaient cette ville parce qu'ils sont venus en décembre.
Pour les matchs de poule.
Exactement. Donc, ils avaient déjà un peu leurs repères. Ils ont retrouvé l'hôtel où ils étaient. Ils ont retrouvé le quartier où ils étaient. Il y a l'ailier sud-africain Dylan Leeds qui est originaire du Cap, donc qui leur avait déjà montré quelques bonnes adresses. Gurs Rostinkamp, l'entraîneur de la mêlée aussi. Donc le soir, ils ont pu aller dîner sur le waterfront, sur le quartier portuaire. Et après, la journée, c'était sérieux, c'est-à-dire des séances de muscu dans une salle à côté de leur hôtel, des séances vidéo, un entraînement dans un stade juste à côté du DHL Stadium où ils ont joué samedi. C'était finalement assez cadré. Alors que en décembre, ils étaient beaucoup plus dans la découverte. Ils étaient allés faire quelques visites touristiques aussi. Ils étaient, pour certains, allés voir Robben Island, l'île où était emprisonné Nelson Mandela. Là, ils étaient beaucoup plus concentrés. Ils ont eu un séjour rapproché de 3 jours quand, en décembre, ils étaient arrivés le lundi.
Tu en as parlé, tu as pu rencontrer la famille de Dylan Leeds, qui est donc l'ailier originaire du Cap et qui a joué aux Stormers de 2015 à 2020. Tu peux nous raconter ce que t'as dit sa famille?
En fait, il n'est pas exactement originaire du Cap. Mais
de la province.
Ouais, exactement, de la province. Il est originaire de Strand, qui est une ville à 3/4 d'heure du Cap, qui est une ville portuaire, balnéaire, de banlieue, qui est assez déshéritée. Et en fait, son père, Gershwin, est président du club de rugby local, d'un des clubs de rugby local, parce que même une ville comme ça, qui doit avoir 45 000 habitants, ont 3-4 clubs de rugby. Et eux étaient complètement à fond. Et je crois que Dylan Leeds avait demandé 30 billets pour sa famille et ses amis pour ce match-là. Il y avait de la famille qui était venue du nord de l'Afrique du Sud. Enfin, il y avait une vraie ambiance autour de lui. Il avait plein de copains. Il a retrouvé en face Damian Willemse, le centre des Springboks, champion du monde, qui est un de ses amis d'enfance. Enfin, il y avait une belle histoire autour de lui. Après, il n'a pas fait un grand match. Ça ne lui a pas trop servi, mais c'est sa famille qu'on a retrouvée en tribune après match. Eux étaient fous de joie malgré tout.
Donc on l'a dit, La Rochelle avait déjà rencontré les Stormers en décembre, match de poule 21-20. Ils avaient donc perdu d'un point. Et là aussi, le scénario avait été assez dingue. Est-ce que les joueurs ont parlé de ça avant ou après le match? Est-ce qu'ils ont comparé?
Avant match, non, ils ont pas beaucoup comparé. Après match, j'ai entendu un joueur dire que Manny Liebrock aurait peut-être fait de moins célébrer sa transformation du mois de décembre. De fait, il y a peut-être eu un retour de karma. Mais sinon, non, il ne s'était pas spécialement appuyé sur ce match. Il savait qu'un match de phase finale, c'était quand même complètement autre chose.
Donc les Rochelais ont gagné ce match, mais ça a quand même été très compliqué. Ronan O'Gara avait l'air un petit peu agacé. On a été catastrophique en première période. C'est quoi cette stratégie? Alors Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer ça? En quoi les Rochelais se sont trompés de stratégie, comme le dit O'Gara?
Ouais, ce qui était d'autant plus étrange, c'est que ce n'était pas du tout le plan prévu par le staff sur cette entame de match. Alex Bardo a fait un papier sur le site de l'équipe pour mettre un peu en évidence cette erreur. En fait, ils ont écarté énormément les ballons. Ils ont refusé ce qui fait d'habitude leur force, c'est-à-dire le défi physique devant notamment. C'est la grande force de La Rochelle de ces dernières saisons avec des Golgoth qu'on n'a même plus besoin de citer, comme Skelton, comme Antonio, enfin tout ce genre de joueurs, Aldrit évidemment. Et là, ils écartaient énormément les ballons. Ils essayaient de dynamiser le jeu en jouant vite des touches face à un vent très compliqué, donc avec des passes qui sont évidemment rendues plus risquées.
C'est pour ça qu'ils avaient du mal à enchaîner, effectivement.
Ouais, effectivement. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible qu'ils ne jouaient pas à la Rochelaise, quoi. Après la pause, ils ont eu du coup une petite remontrance et ils ont complètement changé de visage. Ils sont revenus au visage qu'on leur connaît. Il y a des stats un peu rigolotes pour voir justement cet aspect face A, face B. En première période, ils ont perdu 11 ballons, et en deuxième période, plus aucun. C'est enfin la preuve qu'ils prenaient aussi moins ces risques-là, et ils ont mis en difficulté les Stormers devant. C'est aussi assez, je pense, galvanisant pour les joueurs rochelais de se dire qu'ils ont fait mal physiquement à des Sud-Africains. Les Stormers, ils ont eu beaucoup de mal aussi parce qu'ils ont eu pas mal de casses. Je pense que sans ces blessés-là, la fin de match n'est peut-être pas aussi compliquée pour eux. Notamment en troisième ligne, ils ont fait un joueur qui s'appelle Dixon, qui faisait un début de match vraiment impressionnant avant de se blesser. Il y a Deon Fury qu'on connaît un peu mieux, qui a évolué en France, pareil. Voilà, tous ces joueurs-là leur ont manqué sur la fin. Et donc, ouais, c'est devant vraiment qu'ils sont allés le chercher. Juste, il y a un exemple assez précis aussi de comment ils ont pu s'adapter. C'est sur l'essai de Sclavi, le dernier 3, où c'est un essai en force, du coup, évidemment. Et c'est Will Skelton qui lui donne le ballon. En fait, Will Skelton vient se placer à l'entrée du ruck en relayeur. Et il aimante, si on regarde les images, il aimante tous les joueurs Stormers de cette partie. En fait, il en prend 3 sur lui. Et en une passe, il n'a même pas besoin de faire parler sa puissance. Il décale un espace très important, trop important pour Sclavi qui s'écroule juste, quoi.
En première mi-temps, donc, ils se sont trompés de stratégie. Yann, toi qui suis La Rochelle tous les week-ends, est-ce que tu as souvenir d'un match ou d'une mi-temps où les joueurs se sont plantés comme ça ?
Cette saison, c'est arrivé quand même assez régulièrement. Les Rochelais ont du mal à être réguliers. Ils s'inclinent souvent à l'extérieur. Là, c'était, je crois, simplement la troisième victoire de La Rochelle, toute compétition confondue, à l'extérieur. Donc ça montre qu'ils se trompent régulièrement. Certes, un peu moins quand ils ont quasiment tous leurs cadres. Sauf que là, il y avait beaucoup de ces cadres qui revenaient de blessures. Donc je pense que la manière dont ils ont déjoué et ils n'ont pas réussi à respecter les consignes, c'est à la fois lié aux conditions climatiques, à ce vent, et au fait qu'il y avait, il manquait peut-être d'automatisme.
Ronan O'Gara n'était donc pas du tout content à la mi-temps. La Rochelle était menée 13-0. Il l'a fait savoir. Brice Dulin, qui était interrogé par France Télé, a dit à la fin du match, Ronan a fait ses célèbres discours de franglais avec beaucoup de mots qu'on ne peut pas répéter. Yann, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il leur a raconté et qu'est-ce que ça dit de le manager qu'il est ?
Je pense que le mot qu'on ne peut pas répéter, j'ai une petite idée.
Ça a dû l'entendre pas mal, non ?
Par un F et ça doit finir par un G. Après, je pense qu'il les a réveillés. De ce que j'ai cru comprendre, ils ont parlé du respect de leur héritage dans cette compétition. Ils sont quand même les doubles champions en titre. Donc, s'ils venaient à perdre en déjouant totalement comme ça, il y aurait quelque chose de l'ordre du manque de respect à leur propre histoire. Et après, Ronan O'Gara et les autres entraîneurs ont simplement rappelé quelles étaient les consignes, rappelé quelles étaient les basiques, surtout qu'en deuxième mi-temps, ils avaient le vent pour eux. On a vu que les Rochelais se sont rapidement remis à leur jeu classique et ça a tout de suite payé.
Mais O'Gara, il est coutumier du fait des causeries un petit peu énervées ?
Pas tant que ça. Je l'entends
pas
forcément.
On a des images de lui qui hurle beaucoup quand même.
Dans les vestiaires, je ne sais pas s'il crie beaucoup, mais en tout cas, il le dit avec tellement de conviction que ça doit bien rentrer, quoi. Effectivement, avec ce fameux mot qu'il aime répéter.
Tu étais à côté, tu l'as bien entendu ce mot ?
Non.
Non.
Pas ce week-end.
Pour continuer sur Ronan O'Gara, il a dit « C'est une après-midi de réflexion pour moi au sujet de l'équipe que j'ai choisie. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il remet en cause ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déçu ?»
Je pense qu'il se remet en cause dans sa composition parce que justement, il avait pas mal de retours de cadre. Et pour certains, il est peut-être allé vite. Dans ce qu'il nous a dit, il a notamment parlé de Jonathan Danti qui n'avait pas joué depuis son expulsion lors de France-Italie dans le tournoi Destination et qui effectivement a manqué un peu de rythme. Il a parlé aussi de Yuji Sutoni, le centre samoan.
Moi je pense qu'en fait il a cité aussi Anton Astoz, si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il a ciblé surtout ses joueurs de la ligne d'arrière par rapport à leur première mi-temps et par rapport aux ballons qui ont été écartés. Et s'ils ont été écartés, c'est très certainement aussi parce qu'ils ont été appelés, ces ballons. Et je pense que c'est ces joueurs-là et ces décisions-là qui n'étaient pas adéquates du tout qu'il a mis en avant plus que la stratégie devant, quoi.
Donna Karayen expliquait aussi après match, un des entraîneurs des avants Rochelais, que les gros porteurs de balles n'étaient pas toujours placés où il fallait aussi. Donc ça peut venir des trois quarts, mais aussi de certains gros porteurs de devant.
Et du côté des bons points, c'est le match de Louis Panverne qui a été salué, jeune pilier gauche de 21 ans qui a marqué le premier essai des Rochelais. C'est sa première saison en pro, 9 matchs du top 14, son premier en Coupe des Champions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur ?
Sur sa performance, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que c'était sans doute le plus gros défi de sa carrière jusqu'à présent, à 21 ans, et il a tenu la baraque face à des monuments, notamment en fin de match où il a joué une petite dizaine de minutes face à Franz Malherbe en mêlée, qui est la référence au poste de pilier droit au niveau mondial, je pense qu'on peut le dire. C'est un pilier un peu plutôt mobile, on voit qu'il n'est pas très, massif. Il a eu même un peu de mal en mêlée au tout début parce qu'il faisait face aussi aux vices de son adversaire. Mais ce qui est impressionnant, c'est que mentalement, il a réussi à ne jamais être impressionné, quoi. Par le défi qui était devant lui. Et je pense qu'on peut aussi parler de son remplaçant, Kadouri, qui a un peu le même profil de pilier assez léger, qui a un an de moins, je crois, à 20 ans. C'est tous les deux des profils de joueurs hyper mobiles qui ont des sélections avec l'équipe de France des moins de 20 ans ces deux ou trois dernières années. Et qui lui aussi a tenu la baraque en fin de match sous très très forte pression.
Ouais, je pense que ces deux jeunes-là épatent pas mal de monde à La Rochelle depuis cet hiver, parce qu'en fait, à La Rochelle, le pilier numéro 1, Reda Wardi, est blessé depuis janvier. Thierry Paiva, qui est son numéro 2 depuis quelques mois encore avant dans la saison. Le staff avait pensé à prendre un joker médical au poste de pilier gauche, et finalement, ils ont fait confiance à ces deux jeunes-là qui relèvent totalement le défi. Et plus les semaines passent, plus ils se relèvent. Il se relève à la hauteur, même face à des cadors comme Malherbe samedi, et ils en auront un autre contre le Leinster ce samedi-là.
En quart de finale, les Rochelais retrouveront donc le Leinster qu'ils ont battu deux fois en finale de Coupe d'Europe. Pas mal. Alors parlons du Leinster. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de forme des Irlandais qui sont donc en tête de l'URC et qui n'ont perdu que deux fois cette saison ?
Ouais, exactement. Ils ont perdu que deux fois, et encore, le premier qui perd, c'est la première journée, c'est pendant la Coupe du Monde. Donc ils n'ont pas les trois quarts de leur équipe. Et le deuxième, c'était le 1er janvier. Ils avaient peut-être aussi un peu la tête à d'autres choses à ce moment-là.
À quoi tu penses ?
En tout cas, ce qui est vraiment monstrueux avec eux, c'est que ça ne change jamais, quoi. Leur jeu et leur régularité restent la même. Là, ce week-end, ils ont battu Leicester en quart de finale.
En huitième.
Et c'était un match, là encore, qui révèle un peu quel genre d'équipe est ce Leinster, et aussi cette équipe d'Irlande, du coup, parce que c'est quasiment les mêmes équipes, quoi. C'est des équipes assez clones. Il y a des chiffres qui sont un peu rigolos sur ce 8e contre Leicester. Ils ont que 43% de possession, les Irlandais, et 37% d'occupation seulement. Et ils leur passent 5 essais. En fait, ils sont cliniques, quoi. C'est des snipers. Ils ont très peu d'opportunités, mais dès qu'ils en ont une, ça fait but. Et c'est quasiment injouable, quoi, si on n'est pas concentré de A à Z sur une rencontre face à eux.
Quel joueur du Leinster tu pourrais ressortir, les joueurs clés ?
Ouais, il y en a un peu partout. Peut-être celui qui en ce moment marche sur l'eau, c'est Jamison Gibson-Park, le demi-mêlée de l'Irlande et du Leinster, qui a marqué 3 essais en moins de 30 minutes l'autre jour, qui avait déjà fait une fin de tournoi avec l'Irlande assez monstrueuse. C'est un joueur qui est capable de tout faire. C'est pas du tout le même style qu'Antoine Dupont, si on compare un peu aux références, qui est beaucoup plus dans le défi physique. Lui, il va moins chercher peut-être les avant en face, parce qu'il n'a pas le physique d'un Dupont, mais par contre, il a une vision du jeu qui est absolument phénoménale, et il sait très bien animer le jeu très stéréotypé du coup de l'Irlande et du Leinster, avec des systèmes appris à la perfection, un peu façon quarterback, quoi.
La Rochelle a déjà affronté 4 fois le Leinster en 4 saisons. La dernière fois, c'était en match de poule. Défaite 16-9 à La Rochelle. Yann, tu y étais, comment ça s'était passé ? Et est-ce que l'équipe de La Rochelle a évolué ou pas depuis ?
À l'époque, en décembre, La Rochelle était quand même dans une dynamique vraiment difficile. Ils venaient de récupérer leurs internationaux et ils tournaient pas bien. Ils avaient été surpris par un Leinster qui n'était pas non plus dans une super passe.
C'était pas un très grand match. Oui.
Physiquement, ils avaient été, je pense, un peu au-dessus, les Rochelais, mais ils avaient manqué de précision, notamment dans les 22 du Leinster. Donc, je ne saurais pas évaluer la dynamique rochelaise aujourd'hui par rapport à celle de décembre, parce qu'ils viennent aussi de récupérer leurs internationaux, parce qu'ils ont eu aussi des résultats irréguliers ce dernier mois. Je pense que c'est un peu comparable. Sauf que là, ça sera un match de phase finale. Sauf que là, Ronan O'Gara va pouvoir parler d'une revanche sur le mois de décembre. Et ça peut changer pas mal de choses.
La Rochelle ira donc à Dublin, sauf que La Rochelle est en difficulté en déplacement. Seulement 3 victoires à l'extérieur cette saison, donc Pau et Sale en janvier et là les Stormers. C'est la 10e équipe de top 14 à l'extérieur. Pourquoi ça bloque quand La Rochelle se déplace et est-ce que c'est inquiétant vu de ce week-end ?
C'est inquiétant. Pourquoi ça bloque, c'est un peu la grande question, sachant que c'est le cas cette année, c'était aussi le cas il y a 2 ans. Ils ont fait de leur stade de Marcel de Flandre vraiment une forteresse, ils gagnent très très souvent là-bas. Et psychologiquement, il doit y avoir une sorte de blocage à l'extérieur. Après, ce qu'on peut constater, c'est que sur les 3 matchs qu'ils ont gagnés à l'extérieur cette saison, il y en a 2, Sale et les Stormers, où s'ils s'inclinaient, ils étaient éliminés. Donc on voit que dès qu'ils sont sur des matchs coup près, ils arrivent à élever leur niveau parce qu'ils ont ce caractère-là et que souvent ils arrivent à se sublimer même à l'extérieur dans ces conditions.
Et ce qui a peut-être changé aussi de la part de leur adversaire, c'est que La Rochelle est attendue partout maintenant, elle n'a plus le même statut qu'elle avait peut-être, ou elle pouvait encore se permettre de surprendre. Aujourd'hui, recevoir La Rochelle, c'est presque le match de sa saison. Donc il y a aussi cette dimension-là, je pense, qui entre en jeu dans ses performances.
Donc on l'a dit, le Leinster, c'est une équipe que La Rochelle a beaucoup affrontée ces dernières saisons et dans des matchs très importants. Est-ce que ça a fait naître une vraie rivalité entre les deux équipes ?
Ah oui, clairement.
Et comment
clairement, c'est devenu un classique très rapidement en 4 saisons. Et il y a une vraie animosité, je pense, entre ces deux équipes. Je pense que la base de ça, c'est Ronan O'Gara, qui se trouve être un joueur historique du Munster, qui est la province rivale du Leinster. Et quelque part, il a importé cette rivalité à travers La Rochelle, qui est devenue un grand d'Europe ces dernières saisons, alors que le Munster, sur la scène de Champions Cup, a plus de mal. Et il a transmis ça à ses joueurs. Et il y a eu en plus quelques épisodes au fur et à mesure de ces 4 affrontements qui ont fait que la sauce est vite montée. Je me souviens notamment de Greg Aldrit, le capitaine rochelais, après la dernière finale de Champions Cup qu'ils avaient remportée, qui dit en conférence de presse, alors qu'il a le trophée devant lui, que le Leinster ne l'avait pas respecté et que notamment son vis-à-vis, le capitaine James Ryan du Leinster, ne l'avait pas regardé dans les yeux lors du toss avant match. Donc à partir de très peu de choses, ça peut monter, quoi.
Et lors de leur dernière confrontation en décembre, on avait senti aussi cette animosité.
Ouais, on l'avait senti. Il me semble qu'il y avait eu un échauffouré bien bagarreur dès la première mi-temps et assez rapidement. Et je pense que cette semaine, en conf de presse, il pourrait y avoir quelques petites piques. Clairement, il va y avoir des grosses piques samedi.
Et sur le match de samedi, en plus, là où les deux équipes pourront considérer ce match comme une revanche, en fait, parce qu'évidemment que le Leinster a gagné à La Rochelle, mais a un peu oublié ce match. En fait, le vrai automatisme pour eux, c'est les 2 dernières finales perdues, et surtout celle à Dublin l'année dernière, à la maison. La Rochelle pourra peut-être aussi jouer sur ce ressort de la revanche, mais je pense qu'il sera quand même beaucoup plus important dans les têtes des Irlandais.
Je voulais aussi vous parler de l'attachement des Rochelais à la Coupe d'Europe. Donc, ils sont double champions en titre. Bon, l'idée, évidemment, c'est de faire le triplé et d'imiter Toulon de 2013 à 2015. Comment ils en parlent de cette Coupe d'Europe ? Pourquoi c'est important pour eux ? Comment ça se matérialise ?
Je dirais même qu'ils sont double champions en titre, mais l'année précédente, ils avaient été en finale battu contre Toulouse.
Contre Toulouse.
En fait, ils restent sur 3 finales consécutives. Et eux qui n'ont jamais remporté le Brennus, ils sont construits leur palmarès et leur histoire à travers de cette compétition. Je pense que là encore, c'est Ronan O'Gara qui a importé ce goût-là pour la Champions Cup, parce que lui, c'était sa compétition préférée en club. Il l'a remporté avec le Munster et il a ce goût-là pour cette compétition. Et rapidement, quand il est arrivé, on a senti que les joueurs rochelais adhéraient à ce projet, qui disaient qu'ils aimaient la Coupe d'Europe, ils aimaient changer de stade, changer d'environnement, et ils considéraient cette compétition comme presque une priorité. On a posé la question l'autre jour à Grégory Aldrit lors d'un précédent podcast, qui avouait qu'entre gagner cette année le Brennus ou la Champions Cup, il avait une petite préférence pour la Champions Cup.
C'est la compétition qui les a crédibilisés, en fait, aussi à l'échelle non seulement européenne, mais même en France. En fait, c'est là qu'on a compris que ce club-là était un club qui pouvait gagner, fait partie des cadors aujourd'hui. Et ça se voit même, en fait, sur des matchs comme celui face aux Stormers, où on a conscience, quand l'équipe est menée 16-0 en début de deuxième période, qu'elle peut quand même gagner parce que c'est La Rochelle. Et parce qu'ils ont déjà gagné, ils sont déjà revenus d'enfer, pareil, comme de la finale de l'an dernier, où ils sont même 17-0 à la pause, avant de l'emporter là aussi d'un point. C'est une équipe qui n'est jamais battue, et je pense que c'est surtout en Coupe d'Europe, en fait, qu'ils ont acquis ce statut-là.
Donc on verra donc ce que ça donne en quart de finale contre le Leinster. D'ici là, quel est leur programme? Est-ce qu'ils vont en Irlande un peu plus tôt? Est-ce qu'ils vont visiter le fief de Ronan O'Gara?
Ils sont allés directement en Irlande. Ils sont
d'Afrique du Sud en Irlande.
Ouais, ils sont partis dimanche, donc le lendemain du match contre les Stormers. Ils ont fait une escale à Johannesburg, puis ils sont revenus dans la nuit à Paris. Et dans la matinée du lundi, ils sont allés directement à Cork, qui est une ville de la province du Munster, donc le grand rival, et la ville de Ronan O'Gara, mais aussi c'est la région de Dultandilen, le deuxième ligne irlandais de La Rochelle. C'est la ville de Donna Carayan, l'entraîneur des Avants, et d'un des autres entraîneurs. Ils sont quatre Munsterman à La Rochelle. Donc je pense qu'ils vont passer quelques jours en terre conquise avant d'aller défier Leinster à Dublin.
Oui, ils vont s'inspirer de la rivalité Munster-Leinster. Et bon, dernière question, quel est le favori pour vous samedi entre La Rochelle et le Leinster?
J'aurais tendance à peut-être dire le Leinster, parce que je pense, comme j'ai un petit tout à l'heure, que l'esprit de revanche né sur les deux précédentes finales de Coupe d'Europe et va être très très important. Ils sont sur une bonne dynamique en plus, comme on le disait tout à l'heure, avec les seulement deux défaites depuis 6 mois. Donc une petite pièce peut-être sur Leinster. Je te laisse la mettre par contre, Yann.
Non, je dirais aussi Leinster, mais il me semble qu'avant la dernière finale j'avais déjà dit Leinster. Donc je pense que les Rochelais me démentiront sans problème.
On n'est pas très bon pronostiqueur dans cette rédaction.
Tout à fait.
Surtout moi. Merci messieurs d'avoir été dans Crunch cette semaine. Yann, bon match à Dublin. La Rochelle Stormer, ce sera samedi à 18h30. Adrien, toi tu seras à Bordeaux pour bébé Harlequins, la chance. La troisième équipe française, c'est donc Toulouse contre Exeter dimanche. Merci à Marie-Amélie Mott pour l'enregistrement. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez réécouter les autres podcasts de l'équipe sur le foot, le tennis, le basket et tout ce que vous voulez. Bonne semaine à tous. Salut.